Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Aliette Ovine et Cédric Fuentes. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Quatrième et dernier jour de notre série consacrée à la place des femmes dans l'économie. Lundi, nous avons vu que le choix des filières scientifiques était encore largement déterminé par le genre et que ces inégalités se perpétuaient dans le monde du travail. Mardi, c'est l'histoire longtemps ignorée du labeur des femmes que nous avons mise en avant. Hier, enfin, nous avons examiné les nouvelles représentations des femmes à l'écran pour en arriver aujourd'hui à une réflexion sur l'économie du patriarcat. Dans quelle mesure la famille est-elle un lieu d'exploitation économique des femmes ? Comment la réflexion sur le genre peut-elle nous aider à comprendre la persistance des inégalités entre les sexes ? Et quelles sont les nouvelles formes de la lutte féministe ? Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Pour parler de la domination économique des femmes et des moyens d'y mettre fin, nous avons le plaisir de recevoir Christine Delphi, sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, militante féministe et auteure, entre autres, de L'ennemi principal, paru aux éditions Sileps. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade, qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Bonjour Christine Delphi.
Bonjour.
Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, pourquoi la sphère économique est-elle selon vous un champ privilégié pour étudier la domination subie par les femmes ?
Eh bien parce que justement, le patriarcat, qui a beaucoup d'aspects évidemment, et comporte cette base, si on peut dire, économique, qui est l'exploitation du travail domestique des femmes, domestique au sens large, on y reviendra, et qui est en fait la base donc de ce patriarcat et de la domination générale des femmes, y compris justement leur domination dans l'économie classiquement vue. Parce que l'économie ne se limite pas, quoi qu'on en pense, justement au marché. Or, ça fait, disons, des décennies, voire des siècles, en tous les cas, depuis Adam Smith, qu'on considère que l'économie, c'est le marché. Mais l'économie, ça n'est pas seulement le marché. Parce qu'il y a des tas de choses qui se passent en dehors du marché, et beaucoup de travail qui est fait en dehors du marché. Et c'est justement le cas des femmes qui doivent travailler pour leur mari ou conjoint ou compagnon, car ça fait partie, disons, de justement ce qu'on appelle le patriarcat. C'est ce système d'infériorité des femmes qui les rend, qui en fait des quasi-esclaves pour leur mari ou conjoint ou compagnon, etc. Et qui fait qu'une quantité énorme de travail gratuit, qui est le travail domestique, n'est pas payé, tout simplement.
On va revenir, Christine Delphi, bien sûr, sur cette notion de travail domestique gratuit. Mais d'abord, pour le marxisme orthodoxe, l'oppression des femmes est vue comme une conséquence secondaire de la lutte des classes. C'est cette conception que vous remettez en cause ?
Absolument, oui.
C'est cette idée de montrer que les femmes sont des travailleuses au sein de la sphère domestique, au même titre que les prolétaires, finalement.
Non, parce que les prolétaires, hommes, ne travaillent pas dans la sphère domestique.
Mais que c'est une domination qui peut être comparable.
Non, parce que les travailleurs, hommes, ne travaillent pas gratuitement.
Alors, il faut penser les hommes et les femmes comme des groupes sociaux qui existent à travers leurs rapports. C'est ce que vous dites, Christine Delphi. Est-ce que c'est le sens du féminisme matérialiste que vous défendez ?
Oui, c'est ça. C'est exactement ce sens-là. C'est-à-dire que, au lieu de se concentrer pas sur des éléments idéologiques ou religieux ou sur des éléments soi-disant physique, sur les différences entre guillemets naturelles qui existent entre les hommes et les femmes, moi et d'autres qui avons initié cette démarche matérialiste pour analyser la situation des femmes et justement leur infériorité et leur manque de liberté dans tous les domaines, eh bien nous avons entrepris de chercher dans les éléments justement qu'on pourrait appeler ou qu'on peut appeler économiques, mais qui ne sont pas vus comme économiques en général.
Ça a été pour vous le voyage ?
Oui, ouais, pas de problème.
Et vous ?
Ça a été. On a déjà fait 2-3 petites bricoles.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, on a fait la banque. Et donc, du coup, là, on va aller faire la poste. Et puis après, on fera toutes les autres petites courses du matin, du samedi matin. Donc voilà, j'ai failli y aller chez le médecin, mais mon fils finalement ne veut pas y aller. Donc j'ai dit bon, c'est pas grave, ça fera un truc de moins, super. Et puis ça l'embêtait de venir ce matin, fallait se lever et tout. Je lui ai dit c'est comme tu veux. Mais si tu veux, je barre, ça me fait un truc de moins. Je cumule tous les retards de la semaine et donc je rattrape tout le samedi avec tout ce que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine. Donc les courses, quelquefois j'arrive à en faire le midi vite fait parce qu'ils me disent toujours il manque un truc. Donc je vais le chercher vite fait pendant l'heure de table pour leur ramener parce que quand c'est urgent je fais quelque chose quand même. Mais quand ça peut attendre samedi, je cumule.
Voilà le témoignage de Jacqueline, aide-soignante, interviewée dans un reportage des Pieds sur Terre sur France Culture le 11 avril 2011. On entend bien dans ce témoignage, Christine Delphi, le poids des tâches ménagères qui repose en grande partie, voire majoritairement, sur les femmes.
Oui, c'est un poids qui repose, je dirais, essentiellement sur les femmes. Et puis, c'est pas juste un poids, c'est pour ça que je parle d'exploitation. C'est parce que c'est justement un travail que les hommes ne partagent pas avec elles. Les hommes font quasiment pas... On trouve des statistiques qui montrent que les hommes s'impliquent plus, mais en fait, c'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'ils choisissent ce qu'ils ont envie de faire, et la plupart ne choisissent absolument pas de faire l'ensemble du travail ménager, et plus largement du travail domestique, qui ne comporte pas juste la réalisation de quelques tâches. Hein. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on entend souvent des hommes dire « Ah oui, mais moi, j'aide ma femme.
» Bon. Il ne s'agit pas d'aider, mais de partager réellement.
Exactement. Donc, on en est encore très, très loin.
Et vous rejetez, justement, Christine Delphi, l'expression « travail ménager ». Vous préférez parler de travail domestique ?
Alors, je parle de travail domestique parce qu'il se fait... disons, dans le cadre de la famille, c'est-à-dire du domus, ce qu'on appelle la maison. Et les femmes ne font pas juste le travail ménager, elles le font ça se réduit de plus en plus, le travail domestique, au travail ménager, parce que le salariat s'est répandu pendant le 19e et le 20e siècle dans les pays occidentaux. Mais en fait... ce qu'il y a à la base, c'est une appropriation par les hommes de la force de travail des femmes, la force de travail complète, entière. Et quand le salariat était moins répandu, et dans le genre de métier où les hommes ne sont pas des salariés, c'est-à-dire par exemple les indépendants, et les indépendants... il y en a partout, sur toute l'échelle sociale. Hein. Ça va des médecins aux garagistes. Chez les indépendants, le travail des femmes est utilisé pour aider le mari. Et c'est pris comme un acquis. Elles ne sont pas rémunérées pour ça. Donc, pour un travail qui est souvent salarié, hein, par ailleurs...
Ce que vous voulez dire, c'est que les mêmes tâches peuvent être effectuées contre rémunération.
Elles sont effectuées contre rémunération. Par exemple, le travail de secrétaire, le travail d'assistante, le travail de tous les travaux. Si vous voulez, moi, je connais une femme, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Bon, les femmes d'agriculteurs travaillent dans l'agriculture. Elles font plus qu'aider leur mari. Elles en prennent la moitié au moins, et elles ne sont pas rémunérées. C'est-à-dire que l'homme se considère comme le seul producteur. D'ailleurs, c'est le seul qui soit reconnu par les chambres d'agriculture. Il n'y a pas 36 000... il n'y a même pas deux dirigeants de l'exploitation. Donc, c'est le même système, si vous voulez, qui fait que le chef d'exploitation est le chef de famille. Mmh. Mais la plupart des gens... la plupart des hommes maintenant sont des salariés et non pas des indépendants. Mais ça persiste quand même et ça n'est absolument pas remis en cause. Je vais vous donner un exemple de ça. Eh bien, il y a des structures maintenant qui s'appellent les GAEC, hein, dans l'agriculture, qui sont des groupes d'agriculture en commun, etc., et qui regroupent très souvent les membres d'une même famille. Bon, alors, le travail maintenant, le travail agricole, est compté comme des unités d'individus. Eh bien, si les femmes font partie de la même GAEC que leur mari, ce qui est très souvent le cas, hein, puisque ce sont des organisations qui sont basées sur la famille, qui incluent les maris, les femmes, les enfants éventuellement, les frères, les sœurs, eh bien, on compte que les femmes, parce qu'elles doivent accomplir le travail ménager,
elles ne comptent
ne compte
pas comme
que pour une moitié.
Pour une moitié d'unité.
Oui.
Oui, donc c'est un exemple assez illustratif, en effet, de ce marché qui semble caractérisé par le don et non par l'échange. Et justement, sur cette question du don, je voudrais vous faire entendre l'historienne Michèle Perrot.
L'histoire n'est jamais irréversible et l'histoire des femmes moins que tout autre, car elle s'inscrit dans une hiérarchie des sexes avec une forme de domination masculine très importante. Et par exemple, les femmes ont eu beaucoup de difficultés à accéder à la monnaie et au salaire. Il faut bien voir que les sociétés très anciennes fonctionnaient au fond sans monnaie. C'était don contre don. Et bien entendu, les hommes sont sortis de ce système avec le développement de la monnaie. Par contre, les femmes sont restées dedans. On considérait que ce qu'elles faisaient était un contre-don pour finalement la protection qu'elles avaient.
Un extrait de La Grande Traversée consacré au nouveau féminisme, réalisé par Charlotte Bien-Aimée et diffusé en août 2016 sur France Culture. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de cette passionnante série sur notre site franceculture.fr. Comment expliquer, Christine Delphi, que les travaux domestiques des femmes soient exclus du monde de la valeur ?
À cause justement de ce système patriarcal qui fait que, avant tout, si vous voulez, avant même de se demander pourquoi ceci est payé ou ceci n'est pas payé, il faut bien voir que l'institution familiale qui nous a été laissée, on pourrait dire par les Romains, mais probablement même avant, les Romains avaient dû l'hériter d'une autre culture, etc. Il y avait la famille et la domus, c'est la famille, c'est dans les termes romains, c'est l'ensemble des gens qui sont soumis à la volonté du chef du pater familias. Et ce pater familias, il a des prérogatives absolument énormes. Il a par exemple le droit de vie ou de mort sur ses enfants et sur sa femme, mais aussi sur ses esclaves. Et les esclaves faisaient partie de cette domus. Hein. Et donc, c'est toute une partie des gens qui, en effet, comme le dit très bien Michèle Perrot, ce que j'avais déjà écrit dans L'ennemi principal, il est considéré que les femmes, les esclaves, les enfants sont des gens qui sont entretenus par le chef de famille, et tout ce qu'ils font est considéré justement comme un contre-don. C'est pas considéré comme un travail qui mérite rémunération, c'est considéré comme un contre-don parce que ils sont entretenus, ils sont nourris, ils sont logés par le chef de famille. Donc, disons, la situation des femmes, elle est restée celle-là, et ceci ne change que très très progressivement et à la suite de très longues batailles.
Et alors pourquoi, Christine Delphi, cette appropriation du travail domestique des femmes par les hommes persiste-t-elle justement ? Est-ce que c'est parce qu'elle est aussi la conséquence des inégalités que l'on peut trouver dans le travail salarié ? Il y a une interdépendance des deux sphères ?
Il y a une interdépendance, mais le travail domestique, au sens large, hein, c'est-à-dire le travail dans la domus, qui est maintenant, disons, l'exploitation ou le métier de l'homme, elle est ancienne, puisqu'elle vient d'une convention, si on peut dire, d'une convention qui est celle que le chef de famille a des droits sur l'ensemble des gens qui vivent dans cette famille, donc que ce soit les enfants, les femmes, les esclaves, et que cette convention leur permet l'appropriation de tout le travail, de toute la force de travail de ces gens. Vous savez que jusque très tard, enfin ça a commencé à se débloquer à la fin du 19e siècle, les femmes ne pouvaient pas travailler au dehors, c'est-à-dire pour autre chose que le travail familial. Je crois que le mot familial convient mieux là. Qu'avec la permission du mari. Mmh. Et ça n'est qu'aux alentours de 1900 qu'elles ont obtenu le droit de garder leur salaire, quand elles en avaient un.
Mais ce phénomène, Christine Delphi, est renforcé, par exemple, par la discrimination dont les femmes peuvent faire l'objet au travail salarié. On voit que cette interdépendance se crée comme ça, des employeurs qui vont potentiellement préférer des hommes avec cette idée qu'ils seront plus disponibles, moins pris par justement ces charges domestiques.
Mais je ne pense pas que les employeurs pensent ça. Les employeurs continuent de discriminer les femmes. Disons que la discrimination des femmes au travail salarié, parce que depuis longtemps, par exemple, si vous lisez un livre d'Evelyne Sulroux qui a écrit dans les années 60-70, un très bon livre là-dessus, elle montre que même depuis le Moyen-Âge, enfin, c'est très difficile d'avoir des données là-dessus. Les femmes pouvaient travailler pour d'autres gens, hein, ce qui ne veut pas dire que leur mari ne s'appropriait pas leur salaire. Mais elles étaient quand même payées seulement la moitié ou les deux tiers d'un salaire masculin. Et c'est quelque chose qui a perduré. Par exemple, en France, on parlait du salaire familial qui faisait que les hommes étaient surpayés par rapport aux femmes. Donc, pour un travail qui ne s'effectuait pas dans la maison, mais qui était un travail, justement, salarié. Donc ça, je veux dire, c'est plutôt ça qui fait que les femmes sont moins payées, parce qu'il y a, bien que ce ne soit plus dans la loi, Les employeurs continuent d'adapter cette grille de lecture à tout le monde.
Mmh. Enfin, ouais. Oui. Alors la question qui se pose, c'est celle de l'évolution de cette situation. Vous avez dit que les choses évoluaient seulement pas à pas. Je voudrais vous faire entendre la sociologue Christine Castelin-Meunier. Elle était invitée dans l'émission La Grande Table sur France Culture le 27 décembre 2013.
Dans la mesure où l'homme a commencé à s'occuper du bébé, il y a 30 ans, on pensait qu'un homme qui s'occupait d'un nourrisson allait le faire tomber comme un morceau de cristal. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de penser la même chose pour le ménage, avec cette idée que l'homme, il est totalement incapable, inapte à faire le ménage. Or, justement, du côté des jeunes générations, c'est totalement en train de changer. Et notamment parce que s'occuper de soi et respecter l'autre autour de l'entretien de ses besoins, c'est devenu une affaire essentielle dans une société très tournée vers l'affirmation du sujet, de soi, et la notion de respect des droits d'autrui.
Christine Delphi, est-ce que les jeunes générations ne sont pas en train justement de faire bouger les lignes ?
Ben, si vous voulez, je pense que ça c'est une vision un peu idéaliste selon laquelle des valeurs comme le respect de l'autre, etc. Seraient les lignes directrices des comportements des individus. Mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas pour la bonne raison que cette idée de hiérarchie entre les sexes, elle est concomitante de la reproduction au sens le plus biologique du terme, c'est-à-dire qu'on n'éduque pas les petits garçons de la même façon que les petites filles. Donc très tôt, ils savent qu'ils sont supérieurs aux filles. D'ailleurs, vous le voyez facilement, hein, dès 3 ans, ils disent que toutes les filles sont des quilles, enfin dès qu'ils peuvent parler. Et ils ne sont pas mis en cause par leurs parents s'ils ne font pas ce qu'on leur demande, par exemple, juste de ranger leur chambre, par exemple. Bon. Et donc, très tôt, et puis ils perçoivent les rôles que remplissent leurs parents. Donc ils voient très tôt que leur mère fait la cuisine et pas leur père, que leur mère s'occupe de la lessive et pas leur père.
Il y a de plus en plus de pères qui cuisinent.
Bon, ben, je voudrais bien que vous me les montriez.
Alors justement, c'est intéressant, Christine Delphi, parce que ce que vous montrez très bien, c'est le rôle que joue l'État dans la perpétuation de ces exploitations. C'est l'une des explications qui explique que cela continue, si je puis dire.
Ben, d'une certaine façon, oui. Par exemple, vous voyez, la sécurité sociale. Hein. La sécurité sociale, il suffit qu'un homme s'inscrive ou soit inscrit à la sécurité sociale, et la couverture maladie de sa femme est payée par cette seule cotisation, comme celle des enfants. Mais ça lui permet, si vous voulez, d'avoir une femme qui, par exemple, reste à la maison. Et ceci, ça pèse sur tous les autres salariés, y compris les femmes qui travaillent à l'extérieur, qui sont elles-mêmes salariées et qui doivent payer leurs cotisations de sécurité sociale. Donc c'est un peu une double peine pour les femmes qui travaillent, parce que où est la motivation pour une femme d'aller faire un travail salarié et de payer sa cotisation de sécurité sociale, quand même si elle ne la payait pas, elle serait couverte par la sécurité sociale du mari. Donc ça, c'est un poids sur l'ensemble de la société, donc d'abord de tous les gens qui sont célibataires et de tous les gens qui sont et de toutes les femmes qui sont elles-mêmes salariées. Il y a beaucoup d'autres exemples là, que je donne dans ce petit bouquin.
Vous parlez aussi du calcul de l'impôt sur le revenu.
Le calcul de l'impôt sur le revenu, par exemple.
Alors expliquez-nous, en quoi est-ce qu'il contribue à perpétuer aussi cette domination économique?
Il contribue à perpétuer ça à cause du fait que les gens en France, hein, et d'ailleurs c'est à peu près unique, même dans les pays d'Europe, le revenu, il est calculé sur la base du ménage. Donc, si les femmes ont un revenu indépendant, il est versé, disons, dans la cagnotte commune. Ensuite, ce revenu, il est divisé par deux. C'est-à-dire la base d'imposition, c'est la moitié du revenu global du ménage. Et alors là, vous voyez, par exemple, que les hommes qui gagnent beaucoup d'argent, bon, c'est ça qui est déclaré, hein. Bon, les femmes ont zéro, mais ça fait rien. Mettons qu'ils gagnent 100 000, je dis 100 000, je compte pas, bon. Le simple fait d'avoir une femme et ou des enfants fait que son revenu est divisé par deux. Donc c'est très avantageux pour les hommes qui, la taxation sur leur revenu serait considérable.
Il vaut mieux avoir une femme qui travaille peu ou pas du tout, c'est ce que vous dites.
Bon, ça dépend des tranches de revenus, hein. Parce que dans beaucoup de cas, les femmes doivent travailler pour la bonne raison que le revenu du mari ne suffit pas. Mais de toute façon, c'est quelque chose de très injuste, parce que les gens devraient être imposés individuellement sur leur revenu à elles ou à eux. Bon, ça c'est une des façons dont l'État, par la fiscalité, décourage l'emploi des femmes.
Et en même temps, l'État a mis en place des crèches, des garderies qui ont permis aux femmes de travailler en les libérant au moins pendant la journée. Est-ce que là, on n'a pas une véritable avancée, Christine Delphi?
Ben, je me demande.
Pour quelles raisons?
Ben, parce que justement, on dit on fait ça pour les femmes. Pourquoi pour les femmes? Pourquoi est-ce qu'on dit c'est pour les femmes?
L'idéologie qui est derrière vous pose problème, mais la réalité concrète, c'est que les femmes ont pu plus facilement travailler grâce à ces systèmes.
Dans un sens, oui. Mais dans un autre sens, quand vous lirez ce chapitre dans ce petit livre, vous verrez par exemple les femmes dans la RDA, avant la réunification de l'Allemagne, 90% des femmes travaillaient, avaient un travail salarié. Elles subissaient d'ailleurs la même discrimination que dans les pays occidentaux classiques. Enfin, je veux dire non communistes. Mais les enfants ne restent pas toute la journée dans la garderie. Hein?
Et c'est la problématique de la seconde journée, c'est-à-dire cette idée que les femmes ont deux journées à assumer.
Et les femmes de RDA considéraient même qu'elles avaient trois journées parce que il y avait la préparation des repas, l'entretien de la maison, en fait, tout ce qui est le travail ménager, plus les soins aux enfants, parce que les enfants reviennent, mais les maris reviennent aussi, et ils s'attendent à avoir un repas, à ce que la maison soit propre, etc., etc., à avoir leurs pantalons repassés, et Dieu sait quoi. Donc, si vous voulez, c'est pas... En fait, les femmes de RDA en étaient venues à envier les femmes d'Allemagne de l'Ouest. Parce que ces femmes, elles n'avaient qu'une journée de travail, qui était justement le travail domestique, et pas cette triple journée dont se plaignaient les femmes d'Allemagne de l'Est. Donc il faut voir chaque chose bien attentivement, et en comprenant ce qu'on fait et ce qu'on dit, hein. Quand on dit les crèches, les garderies, etc., tout ça a permis aux femmes de travailler. Ben non, parce que les femmes travaillent de toute façon. Elles font le travail domestique de toute façon. Donc ça, c'est quelque chose qui est ajouté. Alors ça peut leur apporter, disons, un brin d'indépendance supplémentaire, mais qui est très calculé aussi, parce que... D'abord, elles sont sous-payées par rapport aux hommes. On le sait, on le voit de plus en plus avec le développement du travail à temps partiel qui est quasiment réservé aux femmes. Et en plus, elles n'ont pas les moyens vraiment d'être indépendantes. Regardez là récemment ce qu'on voyait dans les revendications des Gilets jaunes. Ce qu'on n'a pas vu depuis le début, c'est qu'il y a énormément de femmes qui sont seuls avec leurs enfants, dont les maris ne versent pas de pension. Ils ont des tas d'échappatoires et ils se déclarent, ils fichent le camp.
Mais c'est bien pour ça, Christine Delphi, pardon de vous interrompre, que l'État a créé cette allocation de parents isolés, justement, pour prévenir les cas où les allocations ne sont pas versées par les pères.
Depuis quand? Moi, j'entends parler de ça depuis les années 1980.
Mais c'est une bonne mesure, selon vous?
Mais non, mais elle devait être... Cette allocation, elle devait déjà être versée aux femmes. On est en 2019 et elle n'est toujours pas versée. Il y a encore des femmes qui vivent avec 700, 800 euros par mois avec des enfants à charge. Donc moi, je me demande si cette nouvelle résolution, si vous voulez, c'est comme l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Il y a eu déjà, à ma connaissance, 4 lois de passé depuis 1983. Ça n'a rien changé.
Et en même temps, il y a le problème des pensions non versées. Cette question qui reste encore effectivement d'actualité. On parle de 20 à 30% des pensions dues aux enfants par les pères divorcés qui ne seraient pas versées.
Moi, ce que je lis, c'est 40%. C'est 40% des pensions qui ne sont pas versées. Et ce que l'État ne fait pas, c'est de mettre en œuvre des mécanismes qui ferait que les pensions seraient prélevées automatiquement sur le salaire des hommes divorcés ou séparés, par exemple. Donc, vous savez, l'État, il sait récupérer de l'argent et le trouver là où il est.
Donc, un manque de volonté politique, selon vous.
Mais bien sûr, un manque de volonté politique.
Alors, on va parler dans un instant, Christine Delphi, des représentations qui jouent un rôle essentiel dans la perpétuation des inégalités. Et on va interroger davantage la question du genre.
Don't tell me what to do. Don't. Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était You Don't Own Me de Leslie Gore. Christine Delphi est avec nous pour parler de l'économie du patriarcat et aux origines de cette économie et de cette division sexuelle du travail. Il y a l'identité de genre qui est assignée aux garçons et aux filles dès leur naissance. Comment est-ce qu'on peut définir cette identité de genre, Christine Delphi? Comment est-ce qu'elle s'est construite?
Ça, on ne sait pas comment elle s'est construite. Elle s'est construite dans l'histoire, mais on ne sait pas quelle histoire. Maintenant, vous avez des tas de gens qui prétendent savoir. Alors, par exemple, il y a des chercheuses américaines qui disent que ça s'est construit au moment de la Révolution française, ce qui m'étonnerait quand même. D'autres qui disent que ça s'est construit au Moyen-Âge, d'autres que ça s'est construit au moment des cultures grecques et romaines, d'autres encore que ça remonte aux Égyptiens.
Quoi qu'il arrive, c'est sur le temps long.
Pas forcément long, parce que la Révolution française, c'est pas si vieux que ça. Mais vous dites, ce que j'en pense, moi, je pense que nous n'en savons rien. Voilà. On sait ce qui est dans l'histoire, dans la préhistoire, on ne sait pas. L'histoire, pour nous, eh ben, ça commence avec les Grecs et les Assyriens et les gens qui ont inventé l'écriture. Parce qu'autrement, on n'a pas de documents.
Et alors pour vous, Christine Delphi, la société crée la différence de genre dans une volonté de classer et de hiérarchiser. Et vous dites que le genre préexiste au sexe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ce que je veux dire, c'est que si on pense que le genre, c'est quelque chose, c'est un ensemble d'obligations et qui sont attribuées à un groupe, ça supposerait que le groupe préexiste à ça. Or, il n'y a aucune raison de le penser. Donc, c'est pour ça que je dis que le genre, c'est-à-dire l'attribution d'un, non seulement d'un nom, mais d'une série de d'avantages et de désavantages à tel ou tel groupe. Donc, si vous voulez, que la hiérarchie précède la composition, enfin, précède ce qu'on pourrait appeler le sexe. Physique ou bon.
La différence biologique n'aurait pas suffi, dites-vous, à créer une séparation entre deux groupes.
La différence biologique, elle ne sert jamais à créer ça parce que il n'y a pas une biologie, si vous voulez. Il n'y a pas une biologie dans le sens que on remarque ce qu'on veut remarquer et on s'en sert ensuite pour différencier. Des classes de gens ou pour leur attribuer à la naissance des noms et des rôles qui sont différents et à construire une idéologie selon laquelle le groupe A est supérieur au groupe B parce qu'il a les cheveux verts ou qu'il a un sexe de telle ou telle forme, etc. Donc on ne peut pas s'adresser à la biologie parce que la biologie c'est très grand et puis c'est pas quelque chose qui existe en soi, c'est quelque chose qu'on repère. Par exemple, le cholestérol maintenant fait partie de la biologie. Bon, il n'en faisait pas partie il y a 50 ou 100 ans quand on ne le connaissait pas, qu'on ne le mesurait pas, etc. Donc, si vous voulez, on s'imagine que la nature, et d'ailleurs pas seulement la biologie des êtres humains ou des êtres non humains, mais qu'elle est une espèce de livre ouvert. Elle ne l'est pas.
Qu'est-ce
la biologie, c'est ce qu'on remarque.
Et c'est en cela, Christine Delphi, que vous dénoncez cette idéologie de la différence qui est finalement une façon pour vous de justifier l'inégalité entre les sexes.
Entre les sexes, entre les races, entre les gens, d'une façon générale. Vous avez...
Comment définir cette idéologie de la différence?
Comme ce que vous venez de dire, comme une idéologie de la différence, oui. C'est une idéologie de la différence, oui.
C'est l'idée que celui qui est différent, c'est toujours l'autre, c'est rarement l'homme, le blanc, l'hétérosexuel.
C'est là où on voit que c'est pas tellement une question de biologie qu'une question de la position de classe, la position déjà existante dans la société. Si je vous dis il faut accepter l'autre, ça veut dire que moi je suis pas un autre. Ou une autre. C'est pour ça que j'ai écrit dans ce livre classé dominé que derrière les autres, il y a les uns. ceux qui ont le droit de classer, ceux qui ont le droit de dire tu es un autre.
On crée une norme et un écart par rapport à cette norme. C'est ce que vous entendez par autre, cet autre, c'est celui qui s'écarte d'une norme qu'on a.
Non, il ne s'écarte pas, il est écarté.
Oui, c'est un processus actif. Et alors, quel regard portez-vous, Christine Delphi, sur la multiplication des travaux sur le genre? Est-ce que pour vous, c'est important que ce débat reste vivace aujourd'hui?
Oui, mais maintenant, je ne suis pas sûre que ça a tellement arrangé les choses. Moi, j'ai utilisé ce terme qui était, en effet, né aux États-Unis, quoique le genre, ça soit un vieux mot français, hein. Enfin, vous le savez, ça vient du grec et du latin, et c'est utilisé dans des tas de d'expressions et d'autres mots. Ça a donné, bon, le mot le plus fréquent que tout le monde utilise, qui est sorti de là, c'est les gens. Bon. Donc, c'est pas quelque chose d'étranger, comme beaucoup de gens ont essayé de nous le faire croire, genre, qu'il fallait pas importer des trucs des États-Unis. Bon. Mais en fait, je crois que maintenant, je reviendrai plutôt à une formulation initiale que nous avions faite dans Questions féministes, qui était classe de sexe. C'est-à-dire qu'il y a des classes selon le sexe. Il n'y a pas juste les classes, disons, marxistes, les classes, les différences entre patrons et ouvriers, où il y a des classes de race, il y a des classes de sexe aussi.
Alors écoutons justement la pionnière de ce qu'on appelle les gender studies, la philosophe américaine Judith Butler.
Je n'ai jamais trouvé ma place et je ne la trouverai certainement jamais. Beaucoup de gens prétendent qu'on devrait tous avoir une place associée à son genre. Il faudrait se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau. C'est une façon de voir les choses, mais je n'y crois pas. Si ma réflexion sur le sujet peut être utile, et c'est aux autres d'en juger, c'est parce que j'ai toujours été légèrement décalée par rapport aux positions données. Je m'emboîte mal dans les catégories préétablies, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui les transcende allègrement.
Pour Judith Butler et pour vous, Christine Delphi, il faut aujourd'hui dépasser le genre, c'est-à-dire abolir ce que vous appelez ces classes de sexe.
Mais vous savez, ça c'est encore une autre position idéaliste. Et qu'importe si quelqu'un ne se reconnaît pas dans une classe. Elle ou il y est de toute façon. Hein. Quelqu'un qui est ouvrier peut vous dire « Mais moi, je ne crois pas tellement à cette différence entre ouvrier et patron. » Mais il ne peut pas devenir un patron comme ça en claquant dans les doigts. Et c'est la même chose pour les classes de race ou pour les classes de sexe. Hein. On peut dire « J'y crois pas » ou « Ça m'embête » ou « Je suis en effet dans une position inférieure » par exemple. Seulement, elle ou il y est. Alors, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer individuellement. Vous ne pouvez pas sauter dans une autre classe, hein, parce que vous pouvez prendre un manœuvre et dire, mais moi, il peut arriver le lendemain à l'usine et dire, c'est moi le patron, ça ne va pas vraiment marcher.
Ce que vous dites, Christine Delphi, c'est que vraiment le but du féminisme, c'est d'abolir en même temps la hiérarchie et la division entre les sexes. Mais est-ce que ce combat ne se heurte pas à d'autres féminismes, justement, qui réclament l'égalité dans la différence? Il y a certaines féministes qui veulent être respectées en tant que femmes.
Oui, ça c'est vieux, hein. Je veux dire, ça, depuis longtemps, les femmes qui se révoltaient contre leur statut inférieur... Essayer de trouver des, comment dirais-je, de valoriser leur façon d'être ou ce que les hommes croyaient être leur façon d'être, etc. Mais ça, c'est pareil, ça peut pas plus marcher que le fait de sauter d'un genre dans un autre. Hein.
Mais est-ce que ces thèses différentialistes reprennent de la vigueur aujourd'hui, Christine Delphi?
Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je pense qu'il y en aura toujours des thèses différentialistes. Mais enfin, elles sont surtout portées par les masculinistes, c'est-à-dire par les antiféministes.
Hein. Et vous regrettez aujourd'hui que les études économiques n'intègrent pas cette question du travail gratuit dont on a parlé parmi les causes des inégalités hommes-femmes? Le diagnostic est mal posé, selon vous, donc les politiques publiques ont finalement peu de chances de résorber ces inégalités?
Les politiques publiques, en fait, soutiennent ces inégalités. Elles soutiennent ces inégalités. Je me souviens encore récemment, enfin, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on disait que les femmes manquent de temps. Alors c'est très bizarre que les femmes manquent de temps, parce que les jours font 24 heures pour tout le monde, hein, et ça indépendamment de la nationalité ou du sexe, etc. Donc en fait, elles ne manquaient pas de temps. Elles ne manquaient pas de temps, personne ne manque de temps. On manque de temps par rapport à une tâche définie en dehors de vous, en fait.
Et ce que vous dites, c'est que le patriarcat, en tant que système politique, ne peut pas être remis en question par les bonnes intentions individuelles. C'est une illusion que de penser qu'on peut changer les choses, par exemple, à l'échelle du couple.
Ben, je pense que beaucoup de femmes ont essayé de le faire et essayent de le faire. Mais elles sont limitées là-dedans parce que... très souvent, enfin, je pense à un livre co-écrit par ma collègue Patricia Roux, qui est de Lausanne. Les femmes partent dans un couple avec des visions égalitaristes. Et puis, très vite, elles s'aperçoivent qu'à moins de crier tout le temps sur leur conjoint, elles vont arriver à rien. Et que ça peut être aussi la fin du couple. Alors, elles sont obligées de mettre en balance le souhait de rester dans ce couple, pour des raisons affectives, mais aussi matérielles, et puis leur désir d'égalité.
Cela, même si le conjoint est sensibilisé à ces questions de domination.
Mais il peut être sensibilisé. Je lisais récemment un article écrit par un homme qui avait fait une espèce de transition, et lui, il trouvait que... Dans le foyer, quand il avait fait la vaisselle, il avait fait sa part. Et puis, petit à petit, en discutant avec sa femme, il s'est aperçu que non, que par exemple, ben oui, il fallait acheter des couches. Bon, alors ça, c'est l'exemple qu'il donnait. Et ça l'embêtait particulièrement. En fait, disons que c'était le pire pour lui, apparemment, d'aller dans un supermarché et puis d'acheter des couches. Mais il ne faut pas seulement les acheter, il faut les mettre et tout. Donc, petit à petit, il s'est rendu compte que non, il ne faisait pas sa part une fois qu'il avait fait la vaisselle. Mais est-ce que ça peut être vrai dans tous les couples? Je ne pense pas, parce qu'il y a des classes sociales, par exemple, chez les agriculteurs, où c'est absolument hors de question qu'un homme fasse la vaisselle ou même mette le couvert. Bon. Et puis, c'est vrai dans beaucoup de cultures ou de sous-cultures prolétariennes ou d'ailleurs ou bourgeoises. Donc, si vous voulez, ça n'est pas, le couple n'est pas un bon endroit. On n'a pas vraiment une force de négociation. Parce que le péril, c'est, et il est toujours là, c'est que cet homme qui est, sollicité par sa femme pour avoir plus d'égalité, et finalement, et très vite, il s'aperçoit qu'il pourrait trouver une autre femme qui ne lui demanderait pas tout ça.
Et puis, il y a la question de la charge mentale qui a été beaucoup popularisée ces dernières années.
Oui, mais la charge mentale, ça fait partie du travail domestique.
Voilà, cette idée qu'on doit aussi penser aux tâches, qu'il n'y a pas que la simple division des tâches concrètes.
Oui, mais ça, la charge mentale, ça fait partie des tâches concrètes. Je veux dire, il faut que je me demande s'il y a assez... de papier toilette, mais une semaine à l'avance, hein. ou plusieurs jours à l'avance. Il faut que je fasse le tour des placards pour voir s'il y a tout ce qu'il faut. S'il reste du beurre dans le frigidaire, il suffit pas de mettre un bout de beurre dans la poêle.
Ça représente évidemment un temps aussi. Alors plus largement, on peut se demander si la lutte féministe doit se mener avec les hommes. Christine Delphy, le politologue québécois Francis Dupuy-Déry défend les avantages de la non-mixité, au moins temporaire. On l'écoute.
La non-mixité, dans l'histoire occidentale, les groupes subalternes ont toujours fait ça. Le syndicat, pour moi, c'est de la non-mixité. Dans une assemblée syndicale, on n'invite pas le patron là pour voter avec nous. Mm-hmm. Ah, on va voter une grève, mais c'est pas gentil, on exclut le patron. Ben non, mais le patron est exclu, c'est les salariés qui sont ensemble. Et les autres sont exclus, parce que les salariés sont dans un rapport de force avec le patron. Et donc, quand eux et elles se mettent ensemble pour discuter de leur situation et de leur stratégie et disent, ben, peut-être que ce soir, en fait, on aimerait vraiment être juste entre nous pour parler de notre expérience et développer des stratégies entre nous. C'est pas du racisme contre les autres. Elles vont être en non-mixité 3 heures dans la semaine. Tu peux aller faire une sieste, tu peux aller prendre un verre, tu peux aller lire un livre, tu peux aller au cinéma, tu peux faire ton propre groupe. Là, c'est pas grave, là. Elles sont en train de réfléchir. Peut-être que quand on va sortir, ça va être grave, en fait, parce qu'elles ont des choses à nous reprocher, nous, les hommes, ou elles ont créé un rapport de force. Mais des fois, il faut réfléchir aussi à nos propres positionnements. Et si on reproche aux autres, des fois, de vouloir se retrouver en non-mixité, je pense qu'il faut se demander aussi pourquoi on voudrait être tout le temps partout aussi.
Pourquoi la non-mixité vous semble-t-elle pertinente, Christine Delphi, dans la lutte féministe comme dans d'autres luttes, d'ailleurs?
Exactement. Et d'ailleurs, la réponse de Francis, c'est ce que j'avais répondu un jour à un type qui m'interviewait par téléphone et qui me disait, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'hommes dans les groupes féministes? Encore qu'il y a beaucoup de groupes mixtes maintenant, mais... Et je dis, mais écoutez, les ouvriers ne vont pas aux réunions du MEDEF et les patrons ne vont pas aux réunions des syndicats. C'est comme ça, parce qu'en effet, on a des intérêts différents à défendre. Je pense que la non-mixité est absolument indispensable. On l'a vu dans, et on continue de le voir dans les groupes de personnes racisées qui ont envie de rester entre elles.
Et ce qui provoque énormément de remous, ce qui est... très largement critiqué.
Oui, mais critiqué par qui? Par les Blancs.
Bon, comment expliquez-vous, Christine Delphi, que ça ait autant de mal à passer cette idée de la non-mixité, qu'elle soit dans des groupes féministes ou dans des groupes qui luttent contre les questions antiracistes?
Eh bien, parce que, justement, les uns, hein, ceux qui ont la capacité de nommer et de classer les autres, ne veulent pas que... Ils veulent mettre leur grain de sel, et leur grain de sel est généralement quelque chose qui démobilise les autres. Parce que de toute façon, en plus du fait qu'ils se rendent compte qu'ils seront peut-être dans une mauvaise passe ou dans une moins bonne passe s'ils acceptent cette non-mixité, mais en plus ils sont persuadés d'avoir raison sur tout. Alors ça fait partie de l'éducation, justement genrée, qui fait que les petites filles sont toujours peu sûres d'elles-mêmes, ne parle pas, ou parle très peu, et que les petits garçons, mais dès un âge très très précoce, sont persuadés qu'ils vont avoir raison sur tout.
Hein? C'est pour ça que vous appelez les hommes à ne pas expliquer aux femmes la propre oppression dont elles sont l'objet.
Bah, je ne suis pas la seule à le faire, hein. Ça fait des années que c'est fait, ça fait 40 ans que c'est fait, en tous les cas dans le monde occidental. Et ils continuent à ne pas comprendre qu'ils ne savent pas mieux que nous quelle est notre oppression, d'autant plus que notre oppression est quand même largement due à leurs privilèges. Je ne dis pas à eux personnellement, parce que ce n'est pas une affaire personnelle. De toute façon, il n'y aura pas de progrès fait dans ce domaine-là, si quels que soient les endroits de l'oppression. Par exemple, on le voit maintenant dans le mouvement MeToo. Vous pensez pas possible, enfin, ça n'est pas possible qu'on invite des hommes à participer à des réunions de femmes qui veulent parler des agressions qu'elles ont subies.
Et pour vous, Christine Delphi, comment justement les hommes peuvent-ils participer de cette lutte féministe? Est-ce qu'ils peuvent trouver leur place et si oui, laquelle?
Mais ça, il faut le demander aux hommes qui sont pro-féministes, et il y en a. Il y en a peu, mais il y en a. Et ils considèrent que leur premier devoir, c'est de se taire.
Et peut-être aussi de prendre conscience des avantages dont ils continuent à bénéficier, quel que soit le comportement qu'ils peuvent avoir au niveau individuel.
Bien sûr, de prendre conscience de ça, d'écouter les féministes, mais de ne pas essayer de se mettre dans une position où tous leurs avantages masculins vont jouer et où ils vont essayer de corriger la vision qu'ont les femmes. Parce que personne, je veux dire, si vous avez mal au pied, je ne vais pas vous expliquer pourquoi vous avez mal au pied, c'est votre pied.
Chacun doit parler pour soi, selon vous, Christine Delphi. Et alors, quelle forme aujourd'hui les luttes féministes prennent-elles? Selon vous, Christine Delphi, il faudrait une plus grande solidarité entre les différentes victimes d'oppression. Comment est-ce qu'on peut construire justement cette solidarité?
Ben ça, si vous voulez, je suis pas sûre qu'on doive commencer par ça. Parce que c'est très difficile. Il faut d'abord construire des groupes qui sont vraiment non mixtes sur tous les plans. Par exemple, je vois des groupes, maintenant il y a des groupes de femmes musulmanes. Alors c'est très intéressant parce que, disons racisées dans le sens général. C'est très intéressant parce que d'une part, elles ne veulent pas travailler avec des hommes, y compris des hommes racisés, mais elles ne veulent pas non plus travailler avec des féministes blanches parce qu'elles ont leur expérience à elles et c'est de ça qu'elles veulent et surtout qu'elles peuvent parler entre elles. Mmh. Hein? Parce que imaginez une femme blanche qui arrive dans un groupe racisé et qui va dire « Ah mais moi je suis pas comme ça, moi je suis pas raciste ». Mais ça les intéresse pas, ça fait des années qu'elles entendent ça. C'est un refrain qui est inaudible à leurs oreilles.
Mais comment on fait alors dans un second temps pour faire converger ces différents combats ?
Ben, ça m'amuse toujours cette idée de convergence des luttes. On dirait qu'il faudrait que tout le monde soit dans un grand groupe, mais ça se fait pas en claquant des doigts ou en le souhaitant. Ça, c'est une vision un peu, comment dirais-je, un peu... populiste de « Ah, mais si on était plus, etc. » Bon, on s'inscrit tous à la CGT. Non, ça, c'est pas comme ça que ça va marcher.
Il y a un vrai risque que chacun poursuive son propre agenda, ses propres luttes.
Mais il le faut que chacun poursuive son propre agenda et ses propres luttes. Parce que ces luttes n'existeront pas si elles n'ont pas été fondées sur, justement, une perception commune d'une oppression commune. Alors après, eh ben, les gens vont trouver ou ne pas trouver peut-être des choses qui peuvent faire le pont entre deux types d'oppression. Mais ça n'est pas donné et on ne doit surtout pas culpabiliser les gens qui se rassemblent entre eux ou entre elles, bien entendu, en leur disant mais comment est-ce que vous allez arriver à la convergence ? Et à ce moment-là, c'est pas la convergence qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de mettre au clair ce qu'elles ont en commun, ou ce qu'ils ont en commun.
On arrive presque au terme de cette émission, Christine Delphi. Un dernier mot peut-être sur la nécessité pour les opprimés de définir leurs propres oppressions. C'est pour vous la condition de leur libération ?
Absolument. Et même de la, comment dirais-je, de la possibilité d'en construire une théorie. Parce que, à mon avis, les théories sur la société ne peuvent progresser qu'à l'intérieur de luttes. Il faut qu'il y ait des luttes pour qu'il y ait une remise en cause.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Après avoir évoqué hier la question de la taxe sur les GAFA, vous nous dites aujourd'hui que ces géants du numérique ont contribué à faire basculer le capitalisme dans une nouvelle ère.
Absolument, c'est en tout cas la thèse de Shoshana Zuboff, professeure à la Harvard Business School, qui retrace dans son dernier ouvrage la généalogie de ce qu'elle appelle le capitalisme de surveillance. Un modèle qui serait en passe de remplacer notre bon vieux capitalisme industriel. L'originalité de ce nouveau modèle reposerait sur sa capacité à orienter et à exploiter nos préférences personnelles à son profit. Ce système prend ainsi ses sources au début des années 2000. Google, qui est déjà un puissant moteur de recherche avec plus de 7 millions de requêtes effectuées par jour, peine pourtant à trouver un modèle économique rentable. L'entreprise va alors prendre une décision qui va changer non seulement son propre destin, mais aussi, selon l'auteur, bouleverser notre système économique et politique. Google va commencer à utiliser les données de recherche et de navigation de ses utilisateurs pour les transformer en outils de prédiction capables d'orienter les publicités vers des personnes susceptibles d'être intéressées. En clair, plus de publicités au hasard des pages et des recherches, mais des fenêtres sur mesure apparaissant sur nos écrans pour répondre à des besoins que nous n'avions pas encore.
Entre 2000 et 2004, les revenus de Google augmentent de 3590% et le capitalisme de surveillance est né.
Exactement. L'auteur relève d'ailleurs que plus personne aujourd'hui ne s'étonne de l'omniscience et de l'omniprésence de ces publicités ciblées. Un accommodement qui montre bien l'importance du chemin parcouru et l'évidente victoire culturelle des géants du numérique. Car Google n'est bien sûr pas le seul acteur à faire son miel de cette captation de nos désirs et de nos volontés. À la fin de 2000, Facebook et les autres sont sur les rangs. Un processus de concentration se met en œuvre avec le rachat d'une myriade d'entreprises par les mastodontes du numérique qui consolident ainsi leur position et sécurisent l'accès à nos données. Facebook, Google, Amazon et les autres ont ainsi développé une inlassable stratégie de colonisation et de contrôle de nos informations personnelles par une myriade d'usages et d'outils qui rapidement savent se faire ça se faire passer pour indispensable.
Mais ce capitalisme de surveillance qui s'est construit dans le numérique, Arjuna, commence désormais à s'étendre au monde réel.
Oui, l'économiste donne d'ailleurs un certain nombre d'exemples tout à fait édifiants de l'appropriation de l'espace public minutieusement cartographié par les voitures Google aux objets intelligents, télé, matelas, frigo, ne fonctionnant pleinement que si l'utilisateur leur donne accès à l'ensemble de ces données. Shoshana Zuboff prend également l'exemple de Pokémon Go, jeu sur téléphone portable ayant connu un immense succès populaire et dont l'objectif est relativement simple. Les joueurs déambulent dans les rues à la recherche de Pokémon, petites créatures dotées de pouvoirs qui apparaissent sur leurs écrans grâce à un procédé de réalité augmentée. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est qu'en poussant les joueurs à travers villes et campagnes à la recherche de ces Pokémon, le jeu guidait également leurs pas vers des espaces bien réels, des boutiques, des cafés bénéficiant de cet afflux de joueurs. L'opérateur du jeu, qui n'est autre qu'une filiale de Google, aurait ainsi rapidement passé des accords avec des enseignes telles que McDonald's et Starbucks pour s'assurer de la présence de Pokémon à proximité de leur commerce et les naïfs joueurs, par les Pokémon alléchés, de tomber joyeusement dans leurs nombreux filets.
Ces commerces deviennent alors des annonceurs qui payent Google à chaque fois qu'un joueur se trouve à proximité.
Oui, sur le très classique modèle du paiement au clic, les mastodontes du numérique sont désormais payés à la visite. Mais la critique de Shoshana Zuboff ne s'arrête pas là. Ainsi, pour elle, le caractère véritablement problématique de ce capitalisme de surveillance est qu'il opère une transformation de l'expérience humaine en données comportementales. Données qu'il va non seulement collecter et monétiser, mais plus grave encore, plier et infléchir à son profit. Car la valeur de ces données est d'autant plus forte que leur prédiction est fiable. Le capitalisme de surveillance ne se contente donc pas de nous observer, mais s'immisce dans chaque espace de nos vies pour conquérir et contrôler ce qu'il restait encore de nos libertés.
Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chauve et un peu ventru et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au coin, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa.
Ne vous mariez pas les filles, chantée ici par Michel Arnaud, une chanson écrite par Boris Vian. Un immense merci Christine Delphi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je précise pour les auditeurs que vous publierez en mai prochain avec Diana Léonard un ouvrage intitulé L'exploitation domestique aux éditions Sileps. Demain on se demandera pourquoi le monde est toujours accro au charbon et comment en finir enfin avec une matière première responsable de près de 40% des émissions totales de CO2. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.